Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Transistor pour ce journal radiophonique amplifié du vendredi 11 octobre, à moins qu'on soit le 12 et que ma montre nous trompe. Bienvenue également pour cette cinquième saison de l'Amplifié, où toute notre équipe complètement renouvelée d'ailleurs est de nouveau à pied d'œuvre pour cette cinquième année et pour vous retransmettre toute l'information mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Alors de quoi est-elle faite cette nouvelle équipe et de quoi sera faite cette cinquième saison? Eh bien on commencera comme d'habitude avec un journal, puis nous continuerons avec la chronique internationale de Marie où nous partirons au Cameroun. Nous continuerons avec une notion de merde que nous expliquera Arthur. Et puis on continuera avec un billet économique autour des prix Nobel, ce sera avec Julien. Puis un billet écologique autour du GIEC, nous retrouverons Mathilde à cette occasion. Et après une dernière petite actu, nous passerons à la culture avec un gros journal de la culture signé Sarah et Léa, mais pas la même Léa. Il sera question de poulpe, entre autres. Puis la chronique musicienne autour du nouvel album de Morello et d'un concert de Mozart, ce sera avec Benoît et Maë. Nous retrouverons ensuite un revenant qui sort des ténèbres cachanaises, ce sera Léo pour un petit voyage en Soyouz dans la chronique scientifique. Et on terminera avec le billet éducation autour des nouveaux programmes de français, ce sera avec Arthur. Mais donc en attendant tout ça, ce programme chargé, on démarre tout de suite avec le journal et un petit rappel des titres. Dans l'actualité nationale, on parlera du remaniement, ou plutôt du non-remaniement ministériel de notre président Macron. On continuera avec l'aile gauche du PS qui fuit le navire. Et puis nous parlerons rapidement de cet appel de 440 historiennes pour une plus grande parité dans la discipline. Et puis à l'international, on ira faire un tour du côté des élections au Brésil, de la Cour suprême américaine et d'autres élections en Bavière cette fois. C'est parti pour le journal.
Le bras de fer, les coulisses de l'Élysée, le feu est circonscrit mais les braises restent rouges. Les images pleuvent autour du prochain remaniement du gouvernement, les noms aussi, mais la décision de Macron, elle, reste en suspens. Depuis le départ de Gérard Collomb, qui nous est revenu à Lyon, la mayonnaise ne prend plus entre Matignon et l'Élysée. Le président aurait refusé plusieurs noms proposés par Édouard Philippe, soupçonné de tenter d'avancer ses pions et on s'agite dans le camp des jupéistes et du côté de Raffarin. Certains prônent un gouvernement qui se dirigerait vers une coalition, s'ouvrirait au centre-gauche, les noms pleuvent, Franck Riester, Christophe Béchu, mais aucun n'est retenu. Macron, lui, se défend de prendre une décision précipitée. Les ministres, ce ne sont pas des objets sur les étagères, mais des personnes avec qui il faut dialoguer, a déclaré son porte-parole. A priori, on sait au moins que le poste de ministre de l'Intérieur ne sera pas le seul à se voir renouvelé. Affaire à suivre donc.
Une autre non-nouvelle, c'est le départ de l'aile gauche du PS autour de Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann. Mais elle est à peu près symbolique de la crise politique française actuelle. La motion de l'aile gauche n'avait fait que 20% lors du dernier congrès du PS, mais c'est peut-être la dernière part d'âme du PS qui est en train de mourir. Est-ce que c'est dû aux négociations européennes, au récent sondage qui met Mélenchon à la tête de l'opposition face à Macron, ou peut-être n'est-ce juste que la dernière conséquence d'une névrose collective qui a pris le PS depuis 2002 et les incertitudes idéologiques. Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann étaient à la tête de la campagne du non avec Mélenchon au sein même du PS. On se demande alors ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont gratter des places à la France Insoumise, ou est-ce qu'ils vont aller vers Benoît Hamon, créer un énième courant de gauche? On s'en fiche un peu, mais en raison du poids actuel, idéologique et réel du Parti Socialiste, en tout cas, c'est toujours drôle de tirer sur l'ambulance.
Mettons fin à la domination masculine en histoire. C'est l'appel lancé par 440 historiennes quelques jours avant les rendez-vous de l'histoire de Blois qui ont commencé mercredi et dont l'affiche montre, ironie quand tu nous tiens, une Mona Lisa floutée en arrière-plan. Moins de femmes agrégées, moins de femmes professeurs des universités, moins de femmes publiant des articles scientifiques, la liste serait longue. Et les signataires dressent le constat et demandent le respect de la parité dans les jurys de recrutement, demandent également la présence de plus de femmes dans les programmes scolaires et en règle générale, un certain nombre de mesures de discrimination positive pour permettre aux jeunes chercheuses en histoire de trouver leur place dans la discipline. Le principal problème pointé par la Tribune est en effet aussi et surtout un problème d'invisibilité du travail des femmes historiennes, dont les carrières sont souvent bloquées, bien en deçà de celles qu'atteignent les hommes. En s'emparant de l'audience des rendez-vous de Blois, les signataires mettent sur le devant de la scène un problème majeur de l'enseignement supérieur et de la recherche français à suivre. Et on passe maintenant à l'international, Léo.
Alors, au Brésil, le premier tour de l'élection, donc brésilienne, qui s'est déroulé dimanche dernier, a confirmé la domination du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec 46% des voix. Dans le pays fortement clivé entre partisans et opposants au candidat sulfureux, les affrontements et les agressions, notamment homophobes, n'ont cessé récemment d'augmenter. Face à lui, au second tour, le candidat du PT, Fernando Haddad, 29,3% des voix, va tenter de fédérer autour de lui un front républicain, tâche plus facile à dire qu'à faire, au vu de l'animosité que le PT, englué dans les scandales de corruption, inspire à une grande partie de la société brésilienne. Le second tour est prévu pour le 28 octobre.
Un vent de révolte souffle sur les États-Unis aujourd'hui à la suite de la confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême américaine ce samedi 6 octobre. Cette nomination marque un véritable tournant dans le mandat de Donald Trump, ayant promis durant sa campagne d'infléchir la composition des 9 justices vers un effectif plus conservateur. Ce dernier a su confirmer 2 nouveaux juges depuis son élection, réduisant le nombre de juges dits progressistes au nombre de 4, menaçant directement l'arbitrage de la Cour sur certains enjeux sociaux majeurs tels que l'IVG, les droits de la communauté LGBTQ et la sécurité sociale. À suivre.
Élection test pour le renouvellement du Parlement régional en Bavière, qui ressemble quasiment à une répétition pour l'Allemagne entière et qui a donc des enjeux nationaux. Bien sûr, comme au niveau national, l'extrême droite surfe sur une vague de dégagisme et bien sûr sur la question migratoire qui tend toute la population allemande. La droite traditionnelle, incarnée par la CSU, le parti chrétien conservateur, a essayé alors de calquer le discours anti-migrant et raciste de l'AFD. Or, les électeurs, soit les électeurs modérés en ont marre de ce faux débat, et d'autres préfèrent l'original à une pâle copie. On voit alors la montée de l'AFD à 14% dans les sondages, mais surtout la montée du parti vert à quasiment 20%, qui pompe ainsi tout l'électorat du SPD qui peine à partir de 10%. Est-ce que c'est un signe de l'instabilité politique à venir, puisque aucun gouvernement de coalition ne semble s'ouvrir pour la Bavière? En tout cas, ce que l'on voit, c'est juste que choisir un tempo proche de l'extrême droite ne fait souvent de vous qu'un chef d'orchestre sur un Titanic.
Merci beaucoup à vous tous, Maë, Arthur, Léo et Benoît, pour le journal.
Jusqu'à 21h, le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et nous retrouvons cette semaine une nouvelle chroniqueuse pour un billet international. Bonsoir Marie.
Bonsoir, alors vous venez de l'entendre, ce week-end c'était le premier tour d'une élection présidentielle haute en couleur au Brésil. Mais dimanche dernier, une autre élection avait lieu et se tenait au Cameroun. Les Camerounais en effet ont voté pour élire celui qui succédera à l'actuel président, Paul Biya, 85 ans et à la tête du pays depuis 35 ans. Alors le résultat n'a pas encore été rendu public, il devrait être annoncé dans quelques jours au moment où nous enregistrons, mais il est très probable que Biya entame un 7e mandat. Mais alors, qui est ce vieux monsieur qui pourrait gouverner jusqu'à ses 92 ans? Quel défi devra-t-il relever s'il est réélu à la tête du Cameroun? Eh bien, je vous propose de découvrir quels sont les enjeux, et vous allez voir qu'ils sont très nombreux, de cette élection dont on parle trop peu.
Alors déjà, qui est ce Paul Biya qui pourrait être élu pour un 7e mandat?
Alors Biya passe d'abord quelques années au séminaire avant de partir étudier en France à Louis-le-Grand, à la Sorbonne puis à Sciences Po. À son retour au Cameroun, il travaille au gouvernement du président Amadou Ahidjo, devient premier ministre avant de succéder à Ahidjo quand celui-ci démissionne en 1982. Commence alors une présidence qui va certes durer longtemps mais qui ne va pas être de tout repos. Déjà, Biya échappe à plusieurs tentatives de coup d'État, la dernière étant celle d'avril 1984. Les putschistes sont exécutés, mais ce putsch manqué va laisser Biya très affaibli. Ensuite, on accuse Biya de fraude et son parti de truquer les élections, comme en 1992, lorsqu'on le soupçonne d'avoir volé la victoire au candidat du Front social-démocrate. Et puis, Biya est également critiqué pour son mode de vie. Il aurait dépensé, d'après une enquête, 157 millions en voyages privés ces 35 dernières années. Et on sait aussi que lui et sa femme fréquentent, pour des motifs toujours inconnus, un prestigieux hôtel 5 étoiles à Genève. Vous commencez donc à le comprendre, Paul Biya était loin d'être un président modèle. Et en fait, il ne l'est toujours pas. La preuve par ces deux dates. En 2006, il est accusé d'avoir utilisé l'opération Épervier, lancée pour lutter contre la corruption au sein de la classe politique camerounaise, pour écarter du pouvoir d'éventuels opposants politiques. Et en 2008, il modifie la constitution qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs, une mesure qui est vue par beaucoup, comme un pas vers la dictature.
Mais alors, est-ce que Biya peut vraiment être réélu ?
Alors la réponse, bien qu'incertaine, serait plutôt oui, même si on sait bien que des fraudes et des bourrages d'urnes fausseront probablement les résultats des élections. Le problème, c'est que Maurice Kamto, un des 8 opposants à Biya et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ainsi que Cabral Libii, ont revendiqué leur victoire en dénonçant les fraudes orchestrées par le pouvoir. Pour l'instant, la situation est donc instable. D'un côté, Kamto et Libii s'estiment vainqueurs, mais de l'autre, le gouvernement dénonce cette affirmation. Même s'il est réélu, Biya est qualifié par beaucoup de dictateur, accusé d'organiser des élections uniquement pour se faire, entre guillemets, bien voir des pays occidentaux.
Quoi qu'il en soit, le vainqueur devra faire face à des défis nombreux, non ?
Alors effectivement, déjà, le président devra gérer une population jeune dont les conditions de vie restent précaires, même si Biya a promis, je cite, « l'émergence du pays pour 2035 ». Alors ces quelques chiffres pourront peut-être vous éclairer sur la situation actuelle au Cameroun. Déjà, les 3/4 des 22 millions de Camerounais ont moins de 25 ans. Ils n'ont connu que la présidence de Biya et souhaitent voir du nouveau. Ensuite, 1/4 de la population vit avec moins de 2$ par jour. Le chômage est massif, l'accès aux soins difficile et le Cameroun se classe parmi les 30 pays les plus corrompus au monde. Ensuite, le prochain président devra aussi faire face à une situation économique compliquée. Alors ne soyons pas pessimistes, la croissance est repartie en 2018 après un ralentissement lié à la chute des coûts du pétrole parce que le Cameroun a réussi à diversifier son économie. Autre élément positif, en mars dernier, le port en eau profonde de Kribi est entré en service et devrait booster les exportations du pays. Mais le problème, c'est surtout la dette croissante du Cameroun. Le taux d'endettement du pays a presque doublé depuis 2012 et le pays s'est fait une réputation de mauvais payeur qui n'attire pas les investisseurs. Investisseurs qui sont d'ailleurs peu enclins à investir au Cameroun en raison du climat d'insécurité. C'est ce qui nous mène au troisième défi auquel devra faire face le nouveau président. Lutter contre une insécurité liée aux deux crises majeures qui secouent le Cameroun. La première difficulté majeure que connaît le pays, c'est l'insécurité liée à Boko Haram, ce mouvement terroriste djihadiste qui agit au Niger, mais également dans l'extrême nord du Cameroun. Et la deuxième crise que le pays devra surmonter, c'est la crise des régions anglophones.
La crise des régions anglophones, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors oui, c'est pas si compliqué, vous allez voir. Après la Première Guerre mondiale, la gestion du Cameroun, qui est alors une colonie allemande, est confiée aux Français à l'est et au Royaume-Uni à l'ouest. En 1961, ces deux entités forment une république fédérale. Mais en 1972, le président, donc le prédécesseur de Paul Biya, veut supprimer ces deux États fédérés pour les remplacer par une république unie du Cameroun. En 1983, Biya ne fait qu'aggraver la situation. Alors pourquoi ? Parce qu'il divise la région anglophone en deux provinces, nord-ouest et sud-ouest, il abandonne le terme de République unie du Cameroun, et il va même jusqu'à supprimer la seconde étoile du drapeau camerounais qui représentait les régions anglophones. Depuis, les habitants de ces deux régions anglophones du Cameroun, soit 20% de la population, multiplient les revendications pour dénoncer leur marginalisation. Ils se disent sous-représentés dans les ministères et au gouvernement, et effectivement, un seul des 36 ministres est anglophone. Ils se plaignent également que l'anglais, pourtant une langue officielle au même titre que le français, n'est pas toujours employé dans les documents officiels ou par les fonctionnaires et dénoncent des infrastructures sous-entretenues, un taux de chômage élevé et un retard économique réel. Et les habitants, pour finir, les habitants de ces régions ne font pas que dénoncer la marginalisation dont ils sont victimes. Ils s'opposent également aux forces de l'ordre dans des combats qui sont parfois violents. Et surtout, ils réclament la création d'un nouvel État, l'Ambazonie. Et souhaitent retourner à l'État qui a prévalu entre 1961 et 1972, à savoir deux États au sein de la même République du Cameroun. Et ces manifestants ont même été jusqu'à proclamer symboliquement en octobre dernier leur indépendance vis-à-vis des francophones. Face à cette situation, Biya prône le dialogue et les réformes, une position qui ne va sans doute pas suffire si les revendications et les affrontements entre séparatistes armés et forces de l'ordre se poursuivent.
Et le mot de la fin pour ta chronique, Marie ?
Alors finalement, à l'issue d'une élection boycottée en zone anglophone et marquée par une forte abstention, on peut se demander quel virage va prendre le Cameroun. D'après un proverbe camerounais, peu importe la hauteur de laquelle on tombe, l'important est celle à laquelle on rebondit, eh bien il ne reste plus qu'à voir si le Cameroun sera à même de rebondir pour faire face aux crises majeures qu'il connaît aujourd'hui.
Merci beaucoup Marie pour ce premier édito international et tout de suite on te retrouve Arthur pour donc ta notion pourrie.
La notion pourrie du jour, c'est celle de Chicago Boys. C'est pas un groupe de musique, je suis désolé. En fait, ce sont des élites d'Amérique latine qui ont suivi dans les années 70 les cours du père théorique du néolibéralisme, Milton Friedman, à Chicago. Et lorsqu'ils sont retournés chez eux pour trouver du boulot, c'est-à-dire principalement au Chili, bah ils étaient un peu bloqués parce qu'en face d'eux, il y avait un mec de gauche qui les embêtait bien, il s'appelait Allende. Mais ils se sont retrouvés bien heureux lorsque Pinochet prend le pouvoir en 73. Et plus que le conseiller, ils sont même devenus ses ministres des finances. Alors avec les Chicago Boys, on a eu droit à de nombreuses privatisations, à la destruction des syndicats et des corporations qui pouvaient à peu près protéger les salariés au Chili. Ils ont aussi défendu une monnaie forte qui n'était pas du tout adaptée au mode de vie des Chiliens et qui les a obligés à créer une sorte de marché noir parallèle. Il y a eu aussi de nombreuses expropriations pour pouvoir installer des infrastructures liées aux grandes entreprises. Et en plus, il y avait toujours ces salauds de gauchistes qui n'arrêtaient pas de protester. Or, ces salauds de gauchistes, s'ils étaient au pouvoir, ils tuaient la croissance. Bon, bah, ils ont trouvé une autre solution, ils les ont tués. Parce que c'était quand même une dictature, et les Chicago Boys ont enfermé, demandé l'assassinat de gauchistes, ou les ont expulsés du pays. C'était un juste retour des choses, puisqu'ils étaient un danger pour l'économie. Bon, à cause d'une grande pauvreté, d'un haut taux de chômage et de différentes crises économiques, le Chili a dû retourner à la démocratie et a viré Pinochet à partir de 90. Et on peut se dire que tous ces criminels ont pu être jugés par les organisations internationales comme le reste de la dictature militaire de Pinochet. Non, parce qu'en fait, ils ont pris la tête des entreprises qu'ils avaient eux-mêmes privatisées. Moi, je trouve que c'est assez normal et que c'est la façon sur laquelle on doit être fait. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, misogyne et quasi-fasciste, qui va prendre la tête du Brésil d'ici quelques jours, a le droit à un conseiller économique nommé Paulo Guedes, qui est un de ces Chicago Boys. C'est le principal, c'est celui qui rédige le programme économique du candidat. Et ce qui a valu un applaudissement par les géants de l'agro-business qui seront ainsi bien heureux de pouvoir réprimer les paysans qui les contestent et aussi une indifférence des marchés financiers bien contents que le candidat d'extrême droite arrive à la tête du pouvoir. Donc c'est génial parce qu'au Brésil on pourra crever à cause d'une balle en raison des lois sur le port d'armes, crever car on est une femme en raison de lois complaisantes installées par Bolsonaro, mais aussi maintenant crever de faim à cause d'une politique qui a déjà foiré. Et la notion à l'ordre du jour, c'est peut-être l'impunité de ces élites économiques qui, parce qu'elles peuvent rentrer dans le marché, ne sont jamais jugées au niveau international.
Merci beaucoup Arthur pour cette bien belle histoire de boys band qui font de la samba.
Il giornalo radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Et sans transition, je pense que ça vaudrait mieux. Passons au prix Nobel d'économie, justement. Bonsoir, Julien.
Bonsoir. Il s'agit plus...
Prix Nobel d'économie qui a été dévoilé ce 8 octobre.
Il s'agit plus exactement du prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques, dans la mesure où l'économie ne faisait initialement pas partie des domaines distingués par le chimiste Alfred Nobel. Il aura fallu attendre 1968 pour que la Banque centrale suédoise suggère la création de ce prix. Ce sont donc les Américains William Nordhaus, professeur à l'université de Yale, et Paul Romer, enseignant à la Stern School of Business, qui ont été récompensés pour leurs travaux visant à conjuguer croissance de long terme et bien-être de la planète, selon les termes officiels de l'Académie royale des sciences de Suède. Après le prix Nobel d'économie 2017, qui a mis à l'honneur l'économie comportementale avec Richard Thaler, c'est donc au tour de la macroéconomie de briller.
Alors qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter une telle distinction ?
Eh bien, tout d'abord, Paul Romer a surtout été distingué pour ses recherches concernant la théorie de la croissance endogène, concept qu'il théorise dès 1986. Avec ce modèle, il a en effet résolu une question importante en économie de la croissance, celle de la production des connaissances et l'origine de cette production. Pour bien comprendre, il faut partir d'un modèle canonique en macroéconomie, le modèle de croissance exogène de Robert Solow, lui-même récipiendaire du prix Nobel d'économie en 1987. À partir de plusieurs hypothèses, ce modèle démontre que la croissance d'un pays résulte d'une part de l'accumulation de capital et d'autre part du progrès technique considéré comme exogène. Les travaux de Paul Romer se distinguent de ceux de Robert Solow dans la mesure où il propose une modélisation dans laquelle le progrès technique n'est pas une variable exogène mais fait partie d'une variable interne à la croissance. Pour lui, c'est bien un processus d'accumulation qui produit de la croissance, mais ce processus résulte d'une accumulation de capital au sens le plus large, qui prend alors en compte le capital humain, la circulation des connaissances dans une société, etc. La conclusion du modèle est que pour faire de la croissance, on a surtout besoin d'idées, de brevets, d'innovations, bref de connaissances et surtout d'une accumulation de connaissances. Il pose alors la question des externalités négatives qui freinent la croissance, externalités liées à l'absence d'éducation, à l'absence de diffusion d'idées, à la santé ou au bien-être des populations, bien-être qui peut par exemple être endommagé par le réchauffement climatique. Paul Romer est aussi reconnu pour ses travaux en économie urbaine dans lesquels il tente de modéliser les effets de la dérive des grandes mégapoles sur la pollution et le mal-être des citadins, notamment dans les pays du Sud. Il tente alors de mesurer les externalités négatives présentes et futures, et comme William Nordhaus, de les intégrer à ses modèles de croissance pour inciter les décideurs à agir tant qu'il est encore temps. Néanmoins, le modèle de croissance endogène ne prend pas en compte dans sa version initiale la question de la limite des ressources naturelles. Il repose en effet sur l'idée de la soutenabilité faible. La nature est considérée comme un capital que l'on peut donc substituer.
Donc si je comprends bien, on peut très bien tuer les abeilles, on pourra toujours les remplacer par des robots pollinisateurs.
Exactement. Et c'est là que les travaux de William Nordhaus prennent tout leur sens, travaux qui intègrent notamment le modèle de Romer. William Nordhaus est récompensé pour avoir intégré le changement climatique dans l'analyse macroéconomique à long terme. Comme le souligne l'Académie royale des sciences suédoises. Il a été le premier à créer un modèle quantitatif décrivant les interactions entre l'économie de marché et le climat, et ce, dès les années 1990. Il ajoute au modèle de la croissance une fonction de dommage qui mesure la valeur de ce qui serait dégradé dans le futur, demain, 10-15 ans, à cause du modèle de croissance actuel. Son modèle permet alors d'évaluer les conséquences possibles des politiques climatiques. Parmi ces dernières, il s'est particulièrement penché sur la question de la taxe carbone. En effet, grâce à différentes hypothèses, notamment celle de rationalité des agents économiques, ce modèle permet de fixer le prix d'une tonne de carbone rejetée dans l'atmosphère, en prenant en compte à la fois les bénéfices retirés dans le présent de l'émission de cette tonne de carbone, comme la croissance ou la production industrielle, et ses coûts en particulier en termes de dégradation environnementale, des vies humaines ou du bien-être des générations futures. En économie, cette méthode d'évaluation est nommée analyse coût-bénéfice.
Bon, et concrètement, ça sert à quoi tout ça ?
Très bonne question. Grâce à cette méthode, il est possible de définir une trajectoire optimale. Dans ses dernières publications, William Nordhaus évalue que la trajectoire optimale permettant à la fois de concilier croissance économique et réponse aux défis environnementaux est de 3,5 degrés. Or, ces 3,5 degrés sont très loin, mais alors très loin des conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui dans son rapport, publié à quelques heures d'intervalle de l'annonce du prix de la Banque de Suède en sciences économiques, fixe un objectif de 1,5 degré si on veut s'en sortir. Il n'en reste pas moins que d'après ses recherches, le moyen le plus efficace de réduire les problèmes causés par les émissions de gaz à effet de serre serait un système global de taxes carbone imposé uniformément dans tous les pays.
Merci beaucoup Julien pour cet édito économique, le premier d'une longue série, on n'en doute pas. Et on passe tout de suite, mais alors c'est bien, les transitions des chroniques s'enchaînent avec une fluidité incroyable aujourd'hui, puisqu'on en vient justement à l'écologie. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Alors, il sera question du rapport du GIEC, paraît-il.
Eh bien oui, puisque comme l'a dit Julien, le rapport du GIEC a été présenté ce lundi 8 octobre et ses conclusions ont fait la une de tous les journaux cette semaine. Alors vous me direz quel est l'intérêt d'un énième rapport qui va encore dire que la situation vraiment est affolante et que nous devrions tous nous y mettre. Ce qu'il faut le savoir, c'est que ce rapport a été demandé lors de la COP21 par des pays insulaires particulièrement menacés par le réchauffement climatique. parce que le super objectif de la COP21 de rester au-dessous d'une augmentation de 2 degrés de la température globale terrestre ne les satisfait pas. Et pour cause, avec un tel réchauffement de la planète, leur territoire se verrait englouti par l'océan, ce qui, on le comprend, peut être un peu déplaisant. Ils ont donc demandé au GIEC de comparer l'impact d'un réchauffement global de 2 degrés et l'impact d'un réchauffement de 1,5 degré pour savoir si l'objectif plus exigeant de 1,5 degré était envisageable.
Et alors, que dit le GIEC ? Quelle est la différence entre ces deux augmentations de température globale de la planète ?
Eh bien, la différence est énorme, Rémi. Limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, cela signifie réduire de 10 cm la montée globale du niveau de la mer par rapport à un réchauffement de 2 degrés. Donc 10 cm, on peut se dire que c'est rien, seulement cela permettrait de mettre à l'abri de la submersion 10 millions de personnes. Et ce n'est pas tout. C'est 70 à 90% du récif corallien qui disparaîtrait dans le cas d'un réchauffement à 1,5 degré, contre 100% dans le cas d'un réchauffement à 2 degrés. Vous comprenez donc la suite logique, le risque de catastrophes naturelles comme les pluies torrentielles ou les sécheresses s'amplifie avec quelques degrés de plus, et les rendements de l'agriculture céréalière diminuent.
La vraie question en fait c'était, est-ce que limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que quand on voit les difficultés qu'a la COP21 à fixer l'objectif à 2 degrés, la question mérite peut-être d'être posée, d'autant plus que cet objectif pour l'instant n'est pas vraiment respecté par les politiques des différents pays.
Alors bien sûr, si on continue nos modes de vie et de production actuels, on va droit dans le mur. Et dans cette optique, le GIEC prévoit une augmentation de 5,5 degrés d'ici à 2100. Pour autant, tout n'est pas perdu, et cet appel du GIEC à être plus exigeant dans les objectifs mondiaux est aussi un appel à des actions concrètes et immédiates. Ce rapport n'est pas qu'un simple constat, il propose aussi des solutions pour parvenir à cet objectif de 1,5 degré. Par exemple, il faut enclencher la transition énergétique, massivement et rapidement. Cela implique, entre autres, un investissement mondial de 900 milliards de dollars pour que les énergies renouvelables deviennent majoritaires d'ici à 2050. Alors non, les solutions ne manquent pas. Ce qui manque, c'est une véritable volonté politique. Oui, Macron ne fait rien. Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont augmenté en 2017, alors qu'elles doivent diminuer de 45% d'ici à 2030 pour respecter l'objectif de la COP21. Mais il n'y a pas que Macron. Il y a aussi les citoyens, et eux commencent à se retrousser les manches, contrairement au gouvernement. Depuis la démission de Nicolas Hulot, le mouvement des défenseurs de l'environnement s'élargit. On l'a vu à la manifestation du 8 septembre, qui réclamait des politiques immédiates et concrètes en faveur de l'environnement. Et on l'a vu aussi encore cette semaine avec la vidéo de ces youtubeurs qui appellent à un sursaut collectif et qui ont créé un site que je vous recommande fortement si vous voulez savoir par où commencer pour lutter contre la destruction de la planète. Ce site s'appelle ilestencoretemps.fr. Parmi ces youtubeurs, on compte l'initiateur du projet Vincent Verza, de la chaîne Partager c'est sympa, mais aussi Léa Camilleri ou Max Bird. Ils invitent tous les citoyens à la marche pour le climat du samedi 13 octobre, c'est-à-dire demain, qui rassemblera tous ceux qui sont motivés pour agir pour la planète. Bien sûr, cette marche, elle a aussi lieu à Lyon, alors je vous donne rendez-vous demain à Place des Terreaux pour montrer aux politiques que vous êtes plus chaud que le climat.
Merci beaucoup Mathilde, et il est pile 19h dans notre studio, même si vous ne vous en rendrez pas compte car cette émission est en différé. Et avant de passer à la culture, on termine bien sûr comme d'habitude avec une dernière petite actu. C'est la rentrée pour l'amplifier, l'équipe est nouvelle, fraîche, belle dans sa nouveauté, sa fraîcheur. Les générations se succèdent et le plaisir persiste. C'est la beauté de l'associatif et l'insouciance de l'amateurisme. L'amateurisme ou comment prendre ce que d'autres appellent le travail et en faire de belles histoires, des belles histoires comme celle de ces cambrioleurs amateurs qui se sont introduits dernièrement dans un entrepôt de matériel informatique et se sont emparés de tout un tas de bidules indistinctement. L'informatique, c'est pratique, ça se revend bien, on est là pour l'amour du sport de toute façon, vite on s'enfuit avec la cargaison. Des professionnels n'auraient sans doute pas volé tout un stock de traceurs GPS et n'auraient pas été rattrapés au bout de quelques jours après avoir été suivis à la trace. Des professionnels n'auraient pas engendré cette belle histoire d'amateurs empêtrés dans un monde toile d'araignée plein de traceurs GPS, d'amateurs profitant de leur effraction pour piquer une bière dans le frigo de la boîte d'électronique, laissant leur ADN à l'implacable Big Brother caché entre les canettes. Diable que ce monde très professionnel est triste et qu'il est agréable de commencer la cinquième saison d'une belle histoire avec vous ce soir. Et tout de suite, place au journal de la culture.
Alors, aujourd'hui, nous avons une toute nouvelle voix au micro, et c'est Léa Burga. Bonsoir Léa, tu vas nous annoncer les actualités politiques au niveau de la culture, je crois.
Oui, tout à fait. Car lundi, le prix Nobel d'économie a été attribué. La semaine dernière, c'était ceux de médecine, physique, chimie, puis celui de la paix. Et là, vous vous dites sans doute, merci beaucoup Léa, mais quel est le rapport avec la culture ?
Exactement.
Eh bien le rapport, chère Sarah, il est bien là, et il est loin d'être tiré par les cheveux. En effet, comme vous m'avez écouté avec attention, il ne vous aura pas échappé qu'entre le prix de chimie et le Nobel de la paix, il manque celui de littérature. Il y a une semaine, le 4 octobre donc, après Bob Dylan et Kazuo Ishiguro, c'est un nouvel auteur ou une nouvelle autrice qui aurait dû recevoir ce prix prestigieux. Que s'est-il donc passé, me demanderez-vous ? Un naufrage digne de celui du Titanic, vous répondrai-je. Car, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en novembre 2017, 18 femmes avaient accusé Jean-Claude Arnault, un proche de l'Académie suédoise, donc l'Académie qui attribue le Nobel de littérature, de viol et d'agression sexuelle. Notons d'ailleurs que lundi dernier, une demi-heure avant l'ouverture de la semaine des Nobel, il a été reconnu coupable d'un de ces viols et condamné à 2 ans de prison. Le timing est donc parfaitement symbolique. Or, à ce scandale d'agression sexuelle, que les académiciens ont d'ailleurs tenté de passer sous silence avant de s'écharper dessus, se sont ajoutées quelques menues histoires de conflits d'intérêts. Si bien qu'en mai dernier, après une cascade de démissions, l'Académie suédoise avait dû se résoudre à annoncer que le prix Nobel de littérature de 2018 serait reporté d'un an. Ce report n'est pas seulement le premier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, non. Il est aussi, et surtout, le stigmate du fait que c'est l'institution même qui vacille et sa légitimité qui se fissure. À cause, d'abord, des tentatives de l'Académie suédoise de cacher sous le tapis ses agressions sexuelles témoignant du sexisme de l'institution. Rappelons, au passage, que depuis la Seconde Guerre mondiale, seuls 8 prix Nobel de littérature ont été décernés à des femmes. À cause, ensuite, d'un conservatisme qui est aussi, de plus en plus, taxé d'élitisme. De quoi mettre, en somme, légèrement à mal la devise de l'Académie, talent et bon goût. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour pallier à l'absence de ce rendez-vous annuel, a été fondée une nouvelle Académie, qui décernera ce soir un prix alternatif. Et que ce prix, il se veut démocratique et inclusif. Car les 3 finalistes, à savoir la Guadeloupéenne Maryse Condé, le Britannique Neil Gaiman et la Vietnamienne Kim Thuy, ont été choisis en ligne par le grand public à qui il s'agirait, peut-être, de reconnaître enfin davantage de légitimité, et non pas par 18 académiciens. Pas de discours de prix Nobel de littérature cette année, donc, et, qui sait, peut-être est-ce une bonne chose. Mais je vous laisse sur les mots de cette nouvelle académie qui, pour être simple, n'en sont pas moins justes, lorsqu'elle rappelle que la littérature devrait être associée, je cite, à la démocratie, à l'ouverture d'esprit, à l'empathie et au respect.
Eh bien, merci beaucoup Léa pour ce magnifique billet culturel un peu politique. Et maintenant, passons au sujet long, puisque nous avons décidé d'instaurer un sujet long qui va parler aujourd'hui de la marionnette.
Je ne veux pas de larmes, pas de rire, pas même une idée. Une idée, ce n'est pas rien. C'est ma mère, ta grand-mère, qui a commencé les grands travaux. Elle capturait les couleurs, surtout le bleu. Elle purifiait ce pays. Et moi, devenu adulte, j'ai continué. J'ai inventé les cages.
Bonsoir, chers auditorices, et bienvenue dans le pays de rien. Dans cet endroit parmi les plus sinistres au monde, tout, jusqu'à l'écho de votre rire, est enfermé dans une cage. C'est à partir de cet univers composé par Nathalie Papin que nous interrogeons ce soir Gabriela Arangis sur le rôle des marionnettes au théâtre. Et oui, car dans son spectacle, le roi fou et tyrannique del País de Nada est pris au dépourvu par sa fille, une princesse bien curieuse, qui rencontre un drôle de petit bonhomme.
Il y avait un personnage qui arrivait démorcelé parce qu'il était enfermé pendant longtemps. Et du coup, il y avait d'abord juste que ses jambes qui apparaissent. Avec un comédien, on ne pourra pas faire ça. Que les jambes, ensuite, il y a les troncs qui apparaissent et ensuite la tête. Oui, c'est quelque chose de... Et on le croit. On le croit que ses jambes toutes seules sont vivantes. On croit que ça fonctionne très bien et on les croit vivants.
Alors les marionnettes sont plus que des outils. On les dirait presque dotées d'une âme. D'ailleurs, les sentiments qu'elles suscitent sont mitigés. Hier encore, une amie me grondait comme un poisson pourri à cause d'un film où ces objets, à mi-chemin entre la vie et l'inanimé, l'avaient effrayée. C'est vrai, une marionnette, ça peut être inquiétant, ça vire vite au cauchemar.
Je pense après l'esthétique avec Canto, et je pense que c'est quelque chose qui voulait aussi défendre et parler de quelque chose de cette un peu déshumanisation aussi. Je pense qu'il voulait parler aussi un peu de ça, de la froideur aussi qu'il peut avoir chez l'humain. Et les marionnettes, effectivement, ici, peuvent aussi jouer ce rôle-là, selon comment on l'anime et selon comment on le joue. Ça peut être aussi très effrayant, une marionnette. Il y a beaucoup de gens aussi qui les trouvent effrayantes. Ça peut être très touchant, mais ça peut être aussi très effrayant. Un objet qui peut être très froid et très mécanique, mais qui bouge. Et surtout que des fois, il y a les jeux avec les marionnettes, c'est que on ne sait pas qui manipule à qui. Et c'est là que je pense que ça devient intéressant aussi, le travail de manipulation. C'est qu'il y a des moments où tout se passe. C'est la marionnette qui manipule les marionnettistes. Parce que c'est les marionnettistes qui manipulent la marionnette. Et je pense qu'à ces moments-là, ça devient inquiétant, très inquiétant.
Mais Gabriella est une véritable factrice de marionnettes. L'expression est d'une de ses amies. Ces marionnettes sont un peu comme des enfants. Elles s'y attachent et les gardent en espérant les voir ressortir un jour du placard. Puis, il s'agit parfois de commandes. Il faut les laisser partir alors. C'était ce qui se passait lorsque je l'ai interviewée. Lors de notre première rencontre, je la voyais peindre les visages si expressifs d'une petite vieille et d'un petit vieux, créés exprès pour le projet de la compagnie des Chapechuteurs, dont nous aurons probablement des nouvelles sous peu dans notre journal. Avant de vous décrire un peu le projet, je vous propose d'entrer avec moi dans la fabrique aux marionnettes. De quoi sont-elles faites, ces mystérieuses poupées ?
Je construis à partir de bois. Là-bas, c'est que je construis en bois pour faire les squelettes. Et ensuite, je taille le polystyrène. Je travaille des polystyrènes que je taille. Donc, ça prend beaucoup de temps aussi parce que c'est un travail. D'abord, je dessine la marionnette que j'ai en tête. Après, je vais tailler. Et ensuite, je mets une pâte par-dessus qui va venir finir. Donc, donner les finitions au visage. Et après, il y a la peinture. Pour les corps, j'utilise la mousse que je vais tailler aussi avec un ciseau. Du coup, c'est des techniques aussi que j'ai appris par différentes choses, différents chemins. Par exemple, la mousse, j'avais commencé à apprendre pour la tailler avec la compagnie Philippe Gentil à Paris. Je fais un stage une fois avec eux pendant mes études et ça m'a permis d'apprendre ça. Pour les têtes, je regarde toujours la technique que j'avais prise au Chili, que j'ai un peu améliorée avec les années. Et ensuite, c'est des choses que j'ai regardées ailleurs, j'ai appris à différents endroits en fait.
Donc rassurez-vous, futur Geppetto, la technique ne s'apprend pas seulement sur les bancs d'une école de beaux-arts. Avant de venir en France, Gabriella a suivi une formation dans une école de théâtre au Chili. C'est là qu'elle a découvert l'art de la marionnette. Mais d'ailleurs, la marionnette, comment ça se passe au Chili ? Certaines ont vu et subi les marionnettes tchèques de Schwenkmayer ou de Trenka. D'autres connaissent très bien le guignol lyonnais. C'est une tradition pour bien des contrées européennes et asiatiques. En terre chilienne, qu'en est-il ?
Alors, pareil, je pense que la marionnette, ça fait pas longtemps. Bon, en général, au Chili, on a eu une grosse période de noirceur, on va dire. L'art est un peu caché à cause de la dictature en fait, donc les artistes ont dû partir à l'exil et le théâtre était pendant longtemps aussi un théâtre qui était un peu coupé et du coup là avec le retour il y a un théâtre très politique aussi qui a envie de reconstruire la mémoire.
Dans un contexte politique aussi tendu, la Tropa importe la marionnette au Chili. La marionnette, ou plutôt l'art marionnettique, précise ensuite Gabriella, car la Tropa n'utilise pas de marionnette à proprement parler. Mais une voiture passe bruyamment à ce moment-là, j'en fais grâce à vos oreilles. Son succès popularise vite cet art encore mineur, qui bénéficie, depuis quelque temps, de festivals annuels. Vous l'avez donc entendu. Contrairement à ce que l'on a tendance à croire, les marionnettes ne sont pas que de gentilles petites poupées bonnes à mimer de gentils petits contes pour enfants et puis c'est tout. Non. Al País de Nada font écho ces dictatures où rien n'est permis, ces enfers dont les enfants doivent entendre l'histoire afin de ne pas la reproduire. C'est bien connu, l'artiste ne cherche pas seulement à s'enfermer dans une bulle esthétique idéale. C'est du moins l'idée de Gabriella. Derrière les moments féeriques du pays de rien, cette pièce qu'elle a montée en 2017 à partir d'un livre pour enfants, il y a ces moments tragiques vécus au Chili et aussi dans d'autres pays. Sa collaboration avec la compagnie des Chapchuteurs, qui travaille beaucoup autour de la Seconde Guerre mondiale, n'est donc guère étonnante. Cela s'intitule « Le petit chaperon UF ». C'est tiré d'un livre de Jean-Claude Grimberg et il est temps d'en écouter quelques mots.
C'est une adaptation des Chaperons Rouges. Qui peut parler aussi de l'histoire du nazisme, en fait. Donc, c'est comment on raconte cette histoire aux enfants, comment on peut parler de cette histoire qui est violente et qui est dure d'une autre manière. Il y a une histoire d'abus de pouvoir avec ces loups qui veulent te prendre. Mais il y a aussi beaucoup d'humour dans cette histoire.
Un humour qui rejaillit notamment à travers cette petite grand-mère, à la fois drôle et fragile, pour laquelle la compagnie a fait appel à Gabriella.
Du coup, on s'est demandé comment cette grand-mère elle pourrait être jouée. Comment elle pourrait transposer cette grand-mère, cette vieille dame. Et je pense que la marionnette a quelque chose de très fragile aussi. Comme les grand-mères. Qui est très fragile, mais qui peut avoir aussi beaucoup de personnalité.
Un projet qui promet. Il est temps de clore cette chronique, chers auditorices, hélas. Nous finirons en souhaitant un bel avenir à nos marionnettes. Si ces propos vous ont convaincu, jetez un œil sur la programmation des Célestins. Un certain monsieur Tocbar pourrait vous surprendre en novembre. Eh bien, c'est le prix de quelques pintes et ça dure 1h15, alors oust, on y va. Et puis, pour ceux qui seraient même fauchés pour un demi, les marionnettes, si elles vous font de l'œil, n'hésitez pas à regarder les petits courts-métrages de Schwankmayer ou de Trenka sur YouTube. Cela peut être un peu surprenant, mais bon, c'est très sympa pour accompagner le maté, les graines de guarana et le rutabaga farci au biscuit gerblé au petit déjeuner. Et maintenant, c'est parti pour une petite minute de publicité, parce que nous avons décidé d'établir des publicités dans notre journal.
Vous en avez marre de la bière ? Buvez du pastis ! Vous en avez marre du pastis ? Buvez du chasplin ! Le chasplin, un vin au goût non moins indicible que son nom. Le chasplin chasse votre spleen pour une toute petite partie de la journée. Le chasplin chasse aussi le baudelaire sauvage. Attention, l'abus de spleen est dangereux pour la santé. Buvez du chasplin.
Attention, l'abus d'alcool est aussi dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
Et maintenant, nous allons passer à la chronique culturelle, une nouveauté aussi de notre journal de la culture.
Joignez-vous donc à moi pour une excitante partie de Scrabble.
Comme bien sûr.
Je jouerai la première car je suis jolie. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacht. Le Wacht est un animal aquatique nocturne.
Je vous crois.
Vous l'aurez deviné, chers auditeurices, la chronique culturelle du jour se consacrera...
Au Scrabble dans les séries québécoises ?
Ah mais non Léa, pas du tout. La chronique culturelle du jour se consacrera aux animaux aquatiques nocturnes. Et oui, après avoir été assaillie par des vidéos d'animaux aquatiques en tout genre, je vise le colloque de Léa, je me suis dit qu'il était temps de parler de leur représentation dans l'art. Naturally, nous avons 5 minutes moins 40 secondes devant nous, donc je ne vais pas vous étaler une liste de toutes les formes d'art qui présentent des poulpes, des phoques et des sirènes. Ce serait très ennuyeux de toute façon.
Par qui allons-nous commencer, Sarah ?
Ce ne sera pas le Wacht. Je suis navrée pour les amateurs de Scrabble. Ni le fameux Fefeu, et encore moins le Zezefefeu. En guise d'apéritif savoureux, j'aimerais vous parler des poulpes. D'aucuns sauront que les poulpes sont des céphalopodes benthiques, à la grande différence des pieuvres, qui sont des chenilles laridées à l'état protobulaire, bien sûr. Ma première rencontre avec l'un de ces spécimens fut dans une boutique de jouets ouverte le dimanche après-midi près du canal Saint-Martin à Paris. Depuis ce merveilleux jour, madame, cette petite peluche poulpe ne me quitte plus. Enfin presque. Il lui arrive de se glisser dans des estampes japonaises. Mais Léa, tu dois connaître, toi.
Penses-tu ? La dernière fois que je cherchais comment rêver convenablement quand on est une femme de pêcheur, je suis tombée sur une estampe d'Okuzai.
Je comprends, c'est une question récurrente qui tourmente au moins le 4/4 des êtres humains sur Terre. Nous sommes renseignés sur le sujet. Okusai donc. Vous le connaissez sans doute grâce à la vague, chers auditeurs, reproduit tant et tant de fois que la planète finira par en être submergée un jour. Okusai, ce vieux fou de dessin, nous a laissé environ 30 000 dessins. Graveur, peintre et écrivain japonais, il vécut à l'époque Edo, entre 1603 et 1868, époque durant laquelle se signalent des courants artistiques tels que l'ukiyo-e. Après bien des bouleversements, le Japon connaît la prospérité et un certain calme politique, ce qui, entre autres, favorise l'émergence d'une bourgeoisie urbaine et marchande. À chaque société son art. En parallèle, une nouvelle esthétique prend de l'ampleur, ouste les aristos et leurs coûteuses peintures, place aux gravures sur bois, aux estampes dont la reproduction papier est désormais plus accessible que ces éventails délicatement couverts d'encre de Chine. C'est dans ce contexte qu'Okusai déploie un talent qui transcendra les frontières et les époques. La vague, on la retrouve sur la couverture de La Mer de Debussy, mais aussi sur les sweatshirts cheap et moins cheap en vente sur Internet. Si le rêve d'une femme de pêcheur, estampe où l'on voit un poulpe gentiment déguster le coquillage de madame, si donc cette estampe est aussi érotique, c'est parce qu'à l'époque, on expose les goûts de cette bourgeoisie florissante. Au diable les peintures raffinées de paysages à la Kano, vivent les oiran et autres courtisanes, les scènes érotiques et le théâtre kabuki, si peu orthodoxe. Mais c'est agréable.
Quelle transition ! On passe de peintures de paysages, nobles, à des reproductions en masse de papier porno ?
Oui, c'est à peu près ça. Au Japon, le courant est alors mal considéré en fait. Vulgaire, obsédé par les prostituées et les créatures fantastiques, imaginant les situations les plus grotesques et loufoques qui soient, au point que des artistes comme Kunyoshi passeront par la caricature et divers subterfuges très amusants pour exercer leur art à la fin de l'époque Edo. En Europe pourtant, cette soi-disant vulgarité, on s'en délecte. Vous avez dû entendre parler de ce 19e siècle empreint de japonisme et des nombreuses rétrospectives cette année sur le Japon.
Oh, mais Sarah, si le Japon est toujours au goût du jour, en est-il de même des poulpes ?
Et comment ? Voyons mon répertoire de représentations poulpéennes. Je suis sûre d'en avoir. J'en tiens une. Elle est sur un mur. Géante. Au beau milieu de l'AKC, aka le centre culturel de la ville de Metelkova. C'est un fantastique quartier alternatif à 5 minutes à pied de la gare de Ljubljana. Là, les codes artistiques sont aussi renversés que lors du passage Kano à Edo au Japon. Recyclage de matériaux, assemblage de couleurs inhabituelles, rencontre fortuite d'objets hétéroclites qui rappellera à certains le cours du mercredi matin. Parfois aussi identifiables ces objets que des ovnis. Ce lieu, dont l'affluence touristique précarise les idéaux, est à l'origine un quartier militaire austro-hongrois. Mais laissez-moi rire. Imagine donc Léa, si la Kakani voyait ses sculptures de pieds dotées d'un seul orteil, ou ses fresques géantes couvertes d'animaux marins verts pommes et violets pruneaux. Ce n'est qu'un exemple anecdotique. Mais nul doute que nos amis les poulpes ne soient toujours adulés dans le monde quasi entier.
Nous avons voulu cette semaine donner la parole à une minorité agréable et intéressante, les poulpistes. Monsieur Corusier.
Bonjour madame.
Monsieur Corusier, vous êtes depuis 1975 président des poulpistes de France.
76 précisément.
Oui, et alors quel est le but de votre association ?
C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. L'APF, c'est-à-dire l'Association des poulpistes de France, a été créée dans le but de mettre en contact et de faire se rencontrer aussi souvent que faire se peut les Françaises et les Français qui aiment à se mettre un poulpe sur la tête. Voilà.
Et comment devient-on poulpiste ?
Excellente question. On devient poulpiste par besoin d'identité, par besoin de se reconnaître soi-même, par besoin de se reconnaître pour lutter contre cette société robotisée. C'est cela le mot, on est poulpiste par besoin de se reconnaître.
Et alors, en dehors de ce facteur de reconnaissance, quels sont les autres avantages du poulpisme ?
C'est une excellente question. Ils sont vraiment multiples. Voyez-vous, par exemple, l'été, le poulpe est frais et très agréable à porter. En revanche, l'hiver, il constitue un rempart très très efficace contre toutes les intempéries, le froid, la neige, etc. Et puis par ailleurs, grâce à sa gluance naturelle, le poulpe retient les pellicules disgracieuses dont la prolifération sauvage pourrait nuire, par exemple, au développement d'une idylle.
Eh bien, merci beaucoup pour ce merveilleux journal de la culture. Alors Léa, tu as peut-être 2-3 mots rapides à nous dire sur les annonces à Lyon pour les événements culturels ?
Oui, car si vous avez peur de vous ennuyer après la fin des Cités Muses, courez au Festival Lumière, qui pour ses 10 ans s'offre une magnifique programmation du 13 au 21 octobre. Enfin, si vous n'êtes pas cinéphile, il y a aussi, pour vous occuper, jusqu'au 14 octobre, la Fête de la Science. Des spectacles, expositions, ateliers, projections, débats. Ainsi, dans ce cadre, se jouera l'Arbre Monde au Théâtre de l'Astrée les samedis 13 et dimanche 14 octobre. Une déclaration d'amour aux arbres, sujet curieux, a priori, mais pièce foisonnante, dans laquelle s'entremêlent science, art et littérature. Enfin, on n'oublie pas l'exposition temporaire qui s'installera au Musée des Confluences à partir du 23 octobre, Fête d'Himalayenne, les derniers Kalash. De quoi réfléchir sur la culture et surtout sur les cultures et leur diversité.
Merci beaucoup à toutes les deux pour ce journal de la culture.
Jusqu'à 21h, le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et la culture se poursuit avec une autre nouvelle chronique dans notre amplifié, puisqu'on vous retrouve Benoît et Maë pour une chronique musicienne.
Et commençons par une devinette, voulez-vous ? Quel est l'hommage populaire rendu au sacre du printemps de Stravinsky ?
Serait-ce le massacre du tympan ?
Ou je vais dire des trucs simples.
I need somebody.
Et pour cette toute première chronique musicienne, Benoît, tu avais envie de nous parler d'une sortie d'album.
Tout à fait, Maë. 26 ans après la sortie du premier album de Rage Against the Machine en 1992, qui révèle le talentueux et expérimental guitariste Tom Morello, ce dernier revient aujourd'hui avec son tout nouvel album, The Atlas Underground, enregistré pour la première sous son nom. En effet, à la suite de l'aventure du quartet de Los Angeles, Morello s'illustre dans plusieurs projets plus ou moins renommés. De l'alternatif taillé pour les stades d'Audioslave avec le regretté Chris Cornell, à son projet solo sous forme de protest song folk The Night Watchman, le guitariste affiche à présent la volonté, à travers son nouveau disque, de faire, selon ses dires, un album qui sonne comme celui qu'aurait fait Jimi Hendrix aujourd'hui.
Et qu'en est-il alors ?
Alors, en un mot, l'album est déconcertant, très éclectique, se voulant un pamphlet de justice sociale couplé à une révolution sonore, pour encore une fois citer son auteur, occupant le terrain politique radical de la scène californienne depuis maintenant 2 décennies. Il n'y a pas de doute, on reconnaît le bonhomme. L'album oscille entre des riffs classiques du jeu métallisant de Morello, issu de ses nombreuses années au sein de Rage, mais aussi l'invitation de poids lourds du rap US tels que Killer Mike, de Run the Jewels, mais aussi Big Boy, de Outkast, ou encore RZA, du Wu-Tang Clan.
I see what's happening, I can read between the lines.
Et surtout pour la première fois, l'intégration de musique électronique et de sons directement issus de la scène electrodance américaine. Au total, la galette contient 12 titres, pour autant de collaborateurs prestigieux. Rien d'étonnant dans l'éclectisme de ces collaborations, d'une part les ténors du rap US circulant dans les mêmes sphères idéologiques que notre guitariste préféré, et des figures clés de la danse, ayant été dans les années 90 des kids fans de la première heure des faits d'armes de Morello. Un album très expérimental donc, qui en déconcertera plus d'un, mais dont je recommande fortement l'écoute, comme approche d'une scène musicale californienne s'étant fortement complexifiée au cours de cette dernière décennie et qui permet de prendre le pouls d'une multitude de genres réunis sur un même album.
Et comme l'a subtilement induit cette virgule musicale, c'est dans un registre plus classique que j'ai envie de vous attirer.
Et comment faire plus classique que Mozart ?
Eh oui, dimanche 20 octobre à l'Auditorium, l'Orchestre National de Lyon accompagnera le pianiste et chef d'orchestre Christian Zacharias sur le très connu et très romantique concerto pour piano numéro 20 en ré mineur de Mozart. la sentez venir, cette mélancolie d'octobre, les jours gris qui se succèdent, ne daignant nous pourvoir ni de soleil ni de pluie, vous plongeant dans le marasme de vos vies aussi sûrement que l'humanité court à sa perte. Et soudain, Mozart, la grandeur tragique, une manifestation contre la vie, contre le monde, une rébellion de mortels. Le concerto numéro 20 détonne dans le répertoire classique, tant dans sa forme torturée et ses sursauts que dans sa tonalité. Il est mythique par son histoire aussi, partition achevée la veille de sa première, si bien que c'est Beethoven qui plus tard en marquera les cadences.
Christian Zacharias est quant à lui un soliste allemand à la renommée mondiale et au doigté très sûr.
Mais tout à fait, Benoît. Et il est également chef, et le 20 octobre, il dirigera en première partie l'Orchestre National de Lyon sur la symphonie numéro 91 de Haydn et la symphonie de chambre numéro 2 de Schoenberg. On fera donc honneur ce soir-là au classicisme viennois, que ce soit à travers les figures emblématiques de Mozart et Haydn ou celle du moderne Schoenberg dont la symphonie de chambre numéro 2 incarne la communément appelée seconde école de Vienne.
Un programme à la logique imparable donc.
On en appréciera la finesse. Mais toute taquinerie mise à part, on est content de se faire plaisir tout simplement. Bref, n'attendez plus pour prendre vos places, vous ferez à coup sûr baisser la moyenne d'âge du public de l'auditorium et avec un peu de chance, vous serez soulagé pour une heure de votre désespoir existentiel qui se verra coloré par les vibrations poignantes de l'ONL et du piano de Zacharias.
Merci beaucoup Benoît et Maëma, et on te retrouve bien là dans cette joie de vivre profonde que tu exprimes au quotidien. Et merci pour cette chronique musicienne donc. Et c'est l'heure tout de suite des sciences. Bonsoir Léo.
Bonsoir Rémi.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinué à la fin.
Et c'est décidément une mauvaise passe en ce moment pour les Soyouz qui envoient les astronautes sur la Station Spatiale Internationale. Après la perforation à la perceuse de l'une des capsules Soyouz amarrée à l'ISS dont l'origine n'a toujours pas été identifiée formellement, c'est il y a deux jours une fusée transportant l'une de ces capsules qui a connu un sévère dysfonctionnement 119 secondes après son décollage. Elle transportait deux astronautes vers l'ISS, l'américain Nick Hag et son collègue russe Alexei Odvitchinin, tous deux rescapés indemnes. Après un décollage sans encombre à 14h40 du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, un des quatre boosters latéraux flanquant le corps central de la fusée et allumé lors de la première phase d'ascension se serait mal séparé après usage du reste de la fusée, percutant dans le processus les autres boosters ainsi que le moteur du deuxième étage. Résultat, une nuée de débris derrière la fusée et un échec d'allumage du deuxième étage déviant très fortement la fusée de sa trajectoire initialement prévue.
Bon, et comment les astronautes ont réagi à toutes ces histoires de boosters ?
Alors, avec un calme olympien, Alexei Odvitchinin a annoncé « problème de lanceur, 2 minutes 45, problème de lanceur ». C'était un vol rapide et la procédure de sauvegarde s'est alors déclenchée. La capsule s'est éjectée du lanceur à environ 80 km de hauteur et a commencé alors une rentrée de manière dite « balistique », manière compliquée et technique de dire qu'elle est retombée plus ou moins comme une grosse pierre vers le sol. Les deux occupants ont alors subi des forces d'accélération d'environ 6 à 7G, donc très temporairement, leur poids a été multiplié par 6 voire 7 fois, pendant leur retombée de plusieurs dizaines de secondes avant que les parachutes de la capsule ne s'ouvrent et leur permettent de se poser sans encombre à 401 km environ de Baïkonour. Les équipes de recherche, déployées à la fois par avion et depuis la ville la plus proche de l'atterrissage, Jaskagan, ont atteint et récupéré en moins de 15 minutes les deux astronautes, secoués mais sains et saufs. Après avoir revu leurs proches et une nuit de repos, ils ont rejoint la Cité des Étoiles près de Moscou, où ils se sont entraînés avant leur mission.
Alors, est-ce qu'on a une idée de la cause de cet incident ?
Alors, pour l'instant, aucune, si ce n'est les informations visuelles obtenues par le suivi de la fusée et les données techniques brutes renvoyées par celle-ci. Il faut rappeler que ce genre d'incident en décollage sur des fusées Soyouz est extrêmement rare, les derniers remontant respectivement à 1975 et 1983. Lors de celui de 1983, par exemple, la fusée avait pris feu puis littéralement explosé lors du décollage sur le pas de tir, dévastant celui-ci. À peine quelques instants auparavant, la tour de sauvetage, un dispositif avec de petites fusées fixées sur la capsule Soyouz, s'était déclenchée, arrachant le vaisseau du lanceur en feu avec une accélération dantesque de 14G et sauvant les astronautes soviétiques à bord en les éloignant suffisamment, mais en les secouant pas mal également. Au total, cela fait donc 3 incidents de lancement sans aucune victime sur plus de 1700 lancements réussis de Soyouz.
Bon, et alors quelles vont être les conséquences sur les vols à destination de la Station Spatiale Internationale ?
Alors, ils sont tout simplement suspendus en attente des résultats des enquêtes. Le prochain lancement, prévu le 20 décembre avec 3 astronautes, est ainsi pour l'instant annulé. En plus de l'enquête interne diligentée par Roscosmos, l'agence spatiale russe, une deuxième enquête, pénale celle-ci, a été lancée par le comité d'enquête de la Fédération de Russie, plus haut organe d'investigation du pays. Une certaine tension est en effet palpable dans le monde astronautique russe, après que plusieurs personnalités de ce dernier aient estimé que l'incident de la perceuse était un acte de malveillance. Les 3 astronautes, actuellement à bord de l'ISS, devaient théoriquement rentrer en décembre, mais leur mission pourrait se prolonger si les lancements ne sont pas réautorisés à nouveau d'ici là. Ils ne pourront rester néanmoins que jusqu'en janvier 2019, les batteries de leur capsule de retour risquant des défaillances après.
L'ISS pourrait donc se retrouver sans personne à bord, Léo.
Exactement. Les Américains avec les capsules Dragon, les Européens avec les vaisseaux ATV et les Japonais avec les vaisseaux HTV peuvent ravitailler en matériel la station, mais ne peuvent pas y emmener des humains. À ce jour, seuls les Soyouz russes sont capables d'emporter des astronautes vers l'ISS, ou plutôt étaient, comme on peut le dire, comme avec l'actualité récente. Boeing et SpaceX travaillent sur des capsules habitées pour redonner aux Américains la capacité d'envoyer des astronautes en orbite basse, mais les premiers essais inhabités ne se feront qu'à la fin 2019. L'ISS, quant à elle, fonctionnera très bien, même s'il n'y a personne à bord, cela lui est déjà arrivé en 2000. Toutefois, les expériences à bord, parfois de longue durée, ne pourront pas être continuées, ce qu'aucune agence spatiale ne souhaite.
Une activité spatiale qui est particulièrement mouvementée en ce moment. Merci Léo pour cet édito scientifique et autres activités mouvementées dont il va être question tout de suite. Les futurs programmes de français de lycée, toujours sujet de grands débats. Bonsoir Arthur. Alors c'est pas le même Arthur.
Bonsoir Rémi. Alors quelle vision de l'enseignement du français proposent les futurs programmes du lycée ? 4 points sont affichés comme essentiels. En premier, l'apprentissage de la langue, car les élèves ne la maîtrisent pas suffisamment. Elle donnera lieu à une question spécifique à l'oral du bac. Deuxième point, l'histoire littéraire, d'où des objets d'études croisant systématiquement genre et période, par exemple en seconde, la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Troisième point, la lecture. 7 livres seront à lire dans l'année en seconde et 8 en première. Dernier point, l'appropriation, grâce à un carnet de lecture et de formation culturelle. Sont ainsi annoncés un programme de 4 œuvres obligatoires chaque année en première, une explication linéaire d'un texte d'une 15aine de lignes à l'oral et la suppression de l'écriture d'invention à l'écrit. Beaucoup de retours en arrière donc, un renforcement probable du bachotage et une seule réelle nouveauté, chaque élève devra présenter à l'oral un dossier personnel où il pourra insérer des écrits d'appropriation, je cite.
Alors, à quoi ressemblera le nouveau bac de français avec tout ça ?
Eh bien, l'écrit de la série générale proposera sur une des œuvres au programme un commentaire ou une dissertation. Le sujet d'invention est bien supprimé. En série techno, l'écrit porte sur un corpus avec un commentaire d'un passage d'un des textes du corpus ou une contraction d'un des textes du corpus proposé, suivi d'un essai. L'oral dure 55 minutes, 30 minutes de préparation et 25 de présentation divisées en deux parties, de 12 et 13 minutes. L'élève arrive avec un dossier. Pour composer son dossier, l'élève a choisi, dans chaque objet d'étude, 3 textes parmi ceux étudiés. L'examinateur choisit un des textes dans le dossier, il en demande une lecture expressive, puis l'explication linéaire d'un passage de 15 lignes environ. Puis il pose une question de grammaire sur un mot ou une expression du texte. Puis dans le dossier, l'examinateur choisit parmi une lecture complémentaire, une lecture personnelle, une référence d'œuvre artistique ou théâtrale et un écrit d'appropriation personnelle. Le professeur ne note pas le dossier, mais la manière dont l'élève le présente et le justifie. L'examinateur prend appui sur les choix faits par l'élève.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudra penser de cette réforme des programmes ?
Ces programmes oscillent entre des orientations didactiques, largement assimilées par la communauté enseignante, et les revendications passéistes des associations invitées par le Conseil supérieur des programmes. On peut déplorer l'impasse faite sur la modernité et la francophonie dans ces programmes. C'est bien une vision classique de l'enseignement qui sort confortée dans cette réforme. L'approche chronologique peut difficilement être contestée, la circulation entre les siècles et les œuvres devient plus difficile. Les partisans d'une éducation classique ont réussi à avoir la tête du sujet d'invention par la confirmation de la dissertation et du commentaire en série générale. Le sujet de contraction essai, type brevet des collèges, étant laissé à la série technologique, signe révélateur de la hiérarchie établie entre les filières.
Et du coup, cette réforme va également créer des nouvelles perspectives économiques pour l'édition parascolaire.
Et oui, en effet, les quatre œuvres imposées vont ouvrir le champ à une abondante production éditoriale parascolaire, qui vont alimenter une lecture des œuvres unifiée par un discours officiel, face auquel une authentique réception des élèves aura peu de chances d'être prise en compte. La nécessaire contextualisation historique, culturelle, sociale des œuvres occulte l'histoire de leur réception au fil des siècles ainsi que leur réception contemporaine, écrit l'Association française des enseignants de français, qui craint aussi un retour de la grammaire exhaustive à l'examen oral au détriment du travail de construction du sens dans un texte. L'objectif de cette réforme des programmes est de favoriser le réinvestissement de ce qui était vu en cours, en privilégiant le mot à mot grammatical plutôt que de se focaliser sur le dialogue entre la forme et le fond, fondement même de l'analyse linéaire. Bref, 1-0 pour les classiques face aux modernes.
Merci beaucoup Arthur pour cette chronique éducation qui termine ce journal radiophonique amplifié, le premier de la saison 5. C'était le journal radiophonique amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec cette semaine Marie Douniac, Arthur Kramer, Julien Marcoux, Mathilde Picard, Sarah Andria, Léa Burga, Benoît Auclair, Maë Burla, Léo Bertrand et Arthur Guérin-Turc. En régie, l'inestimable, l'irremplaçable Félix qui sort de son agrègue pour venir nous retrouver le jeudi soir. Et en parlant de jeudi soir, on ne se retrouve pas dans deux semaines mais bien dans trois ou quatre, vacances de la Toussaint oblige. D'ici là, bien sûr, vous pouvez réécouter nos anciens numéros et retrouver toutes les émissions de Transistor chaque mercredi sur transistor.fr.